Véroa Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Claire Moragibour avec vous. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir. Sommet de la CEDEAO à Niamey, Mahamadou Issoufou plaide à nouveau pour un retour rapide des civils au pouvoir. Grève illimitée des médecins internes des hôpitaux publics au Nigeria. Négociations sur le Brexit, les Européens appellent Londres à respecter ses engagements. La demande d'extradition de Julian Assange revient devant la justice britannique. Également dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal. 57e sommet ordinaire de la CEDEAO ce lundi à Niamey sous la présidence du président nigérien Issoufou Mahamadou. La communauté économique des États ouest-africains a une nouvelle fois pressé la junte qui a pris le pouvoir au Mali en demandant un retour rapide des civils. Plus de détails avec notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
Le sommet a réaffirmé la détermination de l'organisation sous-régionale à assurer un retour rapide à un ordre constitutionnel au Mali. Les chefs d'État ouest-africains, tout en saluant la libération de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta par la junte au pouvoir, puis son départ pour des soins médicaux à l'étranger, maintiennent les décisions de sanctions prises à l'encontre du Mali le 28 août dernier. L'exigence d'une transition démocratique dirigée par des civils a également été rappelée avec l'insistance de leur désignation avant le 15 septembre prochain. La conférence des chefs d'État de la CEDEAO, désormais dirigée par le Ghanéen Nana Akufo-Addo, a par ailleurs appelé les États membres dans lesquels se préparent les élections à créer un environnement propice à la tenue d'élections pacifiques, inclusives et transparentes. Dans les trois prochains mois, en effet, des élections sont prévues au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Ghana, en Guinée et au Niger. Abdulrazak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
Les autorités sénégalaises sont critiquées aujourd'hui après des pluies exceptionnelles qui ont provoqué des inondations dévastatrices et fait au moins 5 morts selon les pompiers. Nous reviendrons sur ce dossier avec un reportage de notre correspondant à Dakar en deuxième partie de cette édition. Présidentielle en Côte d'Ivoire, Charles Blé Goudé, l'ex-chef des jeunes patriotes ivoiriens, a affirmé à La Haye, où il est en liberté conditionnelle, qu'il faut reporter le scrutin présidentiel du 31 octobre sous peine d'aller droit dans le mur. Grève illimitée des médecins internes des hôpitaux publics du Nigeria. Ils exigent de meilleures conditions de travail et une hausse de leur salaire. Abdourahmane Dia.
L'Association nationale des internes hospitaliers, qui représente 40% des quelques 40 000 médecins internes nigérians, a remis sur la table les mêmes revendications qu'avant. Établissement d'une assurance vie, hausse des salaires, paiement des arriérés de salaire, ainsi que l'amélioration générale des conditions et des équipements de travail. Ce sont toujours les mêmes problèmes. Nous avons des arriérés de salaire datant de 2014, 2015 et 2016 qui auraient dû être réglés depuis longtemps, a expliqué le président de ce syndicat. Aliou Sonkomba a annoncé que les personnels en charge du traitement des cas de Covid-19 vont rejoindre le mouvement cette fois-ci. Il n'y aura aucune exception, a-t-il lancé. Les grèves dans le secteur hospitalier sont fréquentes au Nigeria, dont les services de santé souffrent d'un manque notoire de financement. En juin, les médecins avaient lancé un mouvement de grève d'une semaine pour protester contre l'insuffisance des équipements fournis au personnel en charge du traitement des cas de Covid-19. Le Nigeria a enregistré plus de 55 000 cas de Covid-19 qui ont fait officiellement 1057 morts.
En Somalie, un kamikaze a tué 5 soldats et grièvement blessé. C'est un conseiller militaire américain en faisant exploser son véhicule rempli d'explosifs à l'entrée d'une base militaire à Janey Abdallah, à 60 km de Kismayo. L'attaque a été revendiquée par le groupe Al-Shabaab. Au Mozambique, près de 70 000 déplacés sont privés de toute aide humanitaire dans le nord du pays en raison de l'intensification de l'insurrection djihadiste. C'est inquiété le programme alimentaire mondial aujourd'hui. L'insécurité alimentaire y devient particulièrement préoccupante. Le PAM et d'autres acteurs internationaux sur le terrain s'inquiètent d'une régionalisation du conflit et de son extension, notamment vers la Tanzanie. La Libye a officiellement enregistré aujourd'hui plus de 1000 nouveaux cas de coronavirus, un record pour le pays. Pour la troisième semaine consécutive, plus de la moitié des cas ont été recensés à Tripoli et dans sa banlieue. Au Maroc, les autorités ont décidé de fermer toutes les écoles de Casablanca aujourd'hui, jour de la rentrée, et verrouiller la capitale économique avec contrôle des déplacements et couvre-feu nocturne face à la propagation du Covid-19. Journalistes et militants des droits de l'homme se sont mobilisés aujourd'hui à Paris, Alger et Tunis pour exiger la libération du journaliste indépendant algérien Khaled Drareni à la veille de son procès en appel. Khaled Drareni est poursuivi pour avoir couvert les manifestations du Irak. Il a été condamné le 10 août à 3 ans d'emprisonnement pour incitation à attroupement non armé et atteinte à l'unité nationale.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, la journée est fériée car c'est Labor Day ou la fête du travail. À cette occasion, le président Donald Trump s'est exprimé de la Maison-Blanche pour évoquer la reprise de l'économie et la bonne santé des marchés financiers américains. Le président américain s'est aussi félicité des progrès dans la recherche sur un vaccin contre le Covid-19. Le taux de mortalité est en baisse de 85% dans le pays depuis avril, a-t-il ajouté. La tension monte entre Londres et Bruxelles. Les Européens ont mis en garde Londres contre toute tentation de revenir sur ses engagements pris lors du Brexit, à la veille de négociations déjà difficiles sur leurs futures relations. John Lyndon.
À l'approche de la fin de la période des transitions pendant laquelle les règles européennes s'appliquent sur le sol britannique fin décembre, les discussions visant à arriver à un accord de libre-échange restent dans l'impasse. Le Premier ministre Boris Johnson s'est dit prêt à claquer la porte mi-octobre faute de compromis, renforçant la crainte d'un no deal potentiellement destructeur économiquement dans une période de crise historique en raison de la pandémie de nouveau coronavirus et faisant par ricochet décrocher la livre sterling sur les marchés. Et l'ambiance est déjà orageuse, s'est encore assombrie avec des informations du Financial Times. Selon le quotidien économique, le gouvernement britannique va présenter un texte de loi mercredi revenant sur certaines parties de l'accord encadrant la sortie de l'UE le 31 janvier dernier, dont les réglementations douanières en Irlande du Nord. Les dispositions en question prévoient le maintien de certaines règles de l'Union européenne dans la province britannique afin de garantir l'absence de frontières physiques et éviter la résurgence des tensions dans cette région ensanglantée par 3 décennies de troubles. Tout ce qui a été signé dans le passé doit être respecté. C'est le gage de la confiance pour l'avenir, a fait savoir le négociateur européen Michel Barnier sur la radio française France Inter. Le Royaume-Uni a formellement quitté l'Union européenne le 31 janvier, près de 4 ans après un référendum historique marquant la fin de presque 50 ans d'appartenance à l'Union européenne.
La justice britannique a repris ce lundi l'examen de la demande d'extradition du fondateur de Wikileaks, Julian Assange. Il est réclamé par les États-Unis qui veulent le juger pour diffusion de documents confidentiels. Nous faisons le point avec Yacouba Ouedraogo.
L'Australien de 49 ans a déclaré devant la Cour ne pas consentir à son extradition. Julian Assange est poursuivi pour espionnage par la justice américaine. Cette dernière lui reproche d'avoir diffusé à partir de 2010 plus de 700 000 documents classifiés sur les activités militaires et diplomatiques américaines, surtout en Irak et en Afghanistan. Le procès pourrait durer 3 à 4 semaines et il risque 175 ans de prison. Plusieurs dizaines de ses soutiens ont brandi des pancartes proclamant, je cite, « Emprisonner les criminels de guerre, libérer Julian Assange » ou encore « N'extradez pas Assange ». L'avenir du journalisme est en jeu, a déclaré le rédacteur en chef de Wikileaks, Christine Raffson. Les avocats d'Assange dénoncent une procédure politique fondée sur des mensonges. Ces conditions de détention ont été dénoncées par le rapporteur de l'ONU sur la torture. Son extradition s'apparenterait à une peine de mort, a déclaré son avocate Stella Morris, devenue sa compagne. Elle a remis à Downing Street une pétition de Reporters sans frontières contre l'extradition de son compagnon, signée par 80 000 personnes.
Pandémie du coronavirus, l'Inde est devenue aujourd'hui le deuxième pays du monde après les États-Unis, recensant le plus grand nombre de cas de Covid-19 et dépasse le Brésil, alors que la pandémie revient en force, notamment en Europe. L'Espagne a dépassé la barre des 500 000 cas diagnostiqués et la France a cumulé plus de 25 000 nouveaux cas en seulement 3 jours. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco avec Nanit Talani.
Madagascar obtient 75 millions de dollars de la Banque mondiale pour combler son déficit budgétaire exacerbé par la hausse des dépenses sanitaires et la baisse des recettes dues au coronavirus. Les fonds permettront aussi de lutter contre la pandémie et de soutenir la mise en place des réformes visant à contrer la crise afin de favoriser la reprise économique. Madagascar avait déjà reçu 171 millions de dollars du FMI en juillet dernier. Les réformes économiques et financières des pays de la CEMAC, la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, sont insuffisantes à cause du manque d'application du programme des réformes initié en 2016, révèle un rapport de l'organisation publié à Brazzaville au Congo. Selon le document, les États n'ont toujours pas mis en place de manière vigoureuse les réformes qui concourent à l'amélioration du climat des affaires, à la diversification de l'économie et au renforcement du capital humain, qui est le facteur important pour l'amélioration de la productivité. Pour terminer, au Tchad, l'ancien ministre du pétrole et de l'énergie, Gerassem Le Bemadiel, a été inculpé et placé sous mandat de dépôt depuis vendredi pour corruption, utilisation illicite des biens de l'État et détournement des fonds publics. L'inspection générale de l'État lui reproche des irrégularités dans la passation des contrats et des facturations en 2013 et 2014 en faveur de 2 cabinets d'audit. Le pétrole représente près de 40% du PIB et plus de 60% des revenus du Tchad.
Et maintenant, la page sport présentée ce soir par Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Fin de la saison 2019-2020 de football en Afrique du Sud, Mamelodi Sundowns a remporté le titre au nez à la barbe des Kaizer Chiefs après un suspense qui a duré jusqu'au bout, à égalité de points avec Sundowns avant la dernière journée disputée samedi. Une victoire pouvait attribuer le trophée aux Chiefs, mais ils ont été accrochés par Baruka 1-1. Au même moment, Mamelodi Sundowns s'est imposé 3-0 devant Black Leopard, décrochant son 5e sacre depuis 2014, le 3e consécutif. En bas du classement, Polokwane City est relégué, mais Black Leopard, Ajax Cape Town et Tchassoukouma disputent les play-offs de relégation. L'Algérien Riyad Mahrez et le Français Emeric Laporte de Manchester City ont été testés positifs au Covid-19 et sont placés en isolement. Aucun des deux ne montre de symptômes. Tout le monde au club souhaite à Riyad et Emeric une guérison rapide avant leur retour à l'entraînement et à la nouvelle saison, a écrit le club anglais dans son communiqué. Mahrez a remercié les supporters qui lui ont envoyé des messages de soutien sur Twitter. « Je vais bien, soyez tous prudents et prenez soin de vous », a-t-il écrit sur son compte officiel. Battu en quart de finale de la Ligue des Champions par Lyon 3-1, Manchester City a eu une semaine de repos supplémentaire et débutera cette saison de Première Ligue le 21 septembre avec un déplacement à Wolverhampton. En Espagne, Lionel Messi a fait son retour au centre d'entraînement du FC Barcelone 3 jours après avoir annoncé sa décision de rester cette saison dans son club formateur. L'Argentin participe à son premier entraînement sous les ordres du nouvel entraîneur, le Néerlandais Ronald Koeman. Ici, en MLS, Blaise Matuidi a joué 78 minutes pour ses grands débuts sous les couleurs de l'Inter Miami, propriété de David Beckham, mais cela n'a pas suffi pour l'emporter face à Nashville 0-0 hier en championnat nord-américain. J'étais un peu fatigué à la fin, cela faisait un moment que je n'avais pas joué un match, mais j'en suis content, même si ce n'est pas le résultat escompté, a commenté après la rencontre Matuidi. Toujours ici, en NBA cette fois-ci, les Lakers ont égalisé à 1-1 contre Houston dans leur demi-finale des playoffs. Les Los Angeles Lakers ont remis les pendules à l'heure pour s'imposer 117-109. Anthony Davis a été le plus prolifique, 34 points et 10 rebonds. Et LeBron James a été proche du triple-double, 28 points, 11 rebonds et 9 passes décisives. De leur côté, les Bucks de Milwaukee sont passés par tous les états, en voyant Antetokounmpo se faire une vilaine entorse à la cheville droite et les quitter prématurément, mais ils ont fait preuve de courage et d'orgueil pour arracher la victoire après prolongation 118-115.
Merci à Kouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Claire Morin-Gibault avec vous, place au dossier du jour. Au Gabon, l'élection présidentielle américaine du 3 novembre prochain est suivie avec beaucoup d'intérêt. Ce vote va départager le président républicain Donald Trump et le candidat démocrate Joe Biden. Ces élections vont se dérouler dans un contexte particulier. Des manifestations contre les discriminations raciales et les violences policières ont lieu depuis des mois aux États-Unis. Qu'en pensent les étudiants gabonais? Reportage à Libreville de notre correspondant Ismaël Obiangze.
Sur le campus de l'université Omar Bongo à Libreville, parler de la présidentielle américaine à David Boulengui est presque une peine perdue. L'étudiant de psychologie pense plutôt à son continent mal en point qu'à une bataille entre démocrates et républicains qui se joue à 10 000 lieues du Gabon.
Je pense que l'Afrique a ses propres problèmes, donc je préfère m'intéresser aux problèmes de l'Afrique. Et je ne pense pas que ça va être vraiment important.
Ça ne change pas.
Ça ne va pas changer grand-chose.
Première puissance économique et militaire, première grande démocratie, le pays de l'oncle Sam fascine Clark Tukwue, le futur économiste garde le rêve américain dans sa tête, malgré tous les clichés et les préjugés qui ont la peau dure.
Le fait que partir de rien, on peut arriver à devenir un puissant d'affaires, on peut arriver à devenir peut-être être élu, hein, même si on est issu d'une minorité, comme c'était le cas avec Barack Obama.
Donc pour mettre entre parenthèses les violences policières qui existent partout.
Oui, pour moi les violences policières existent partout, c'est pas seulement le seul fait des États-Unis.
Qui donc, de Donald Trump ou de Joe Biden, l'emportera en novembre? Pour Guy Mégal, Aziz étudiante en psychologie du travail, la politique sécuritaire des États-Unis fera la différence entre les deux rivaux dans la course à la Maison Blanche.
Déjà pour booster l'économie, on a besoin de l'homme, de l'action de l'homme. Et si l'homme ne se sent pas en sécurité, donc d'une certaine façon, je ne pense pas vraiment qu'il pourra maintenir sa politique lors d'un second mandat ou une réélection. Ceci dit, je pense énormément que les démocrates auront vraiment une chance de remporter cette élection.
Ce n'est pas l'avis de Stéphane Bouka, sociologue, qui croit ferme à un deuxième mandat du président républicain.
Je crois qu'il incarne des valeurs auxquelles je défends. C'est vrai que parfois il a des valeurs que je ne défends pas. Donc c'est quelque part un peu religieux. Je pense que je soutiens un peu sa politique, un peu vis-à-vis de cette communauté chrétienne et évangélique et tout ça.
Si son élection en 2016 a surpris beaucoup d'analystes, la réélection de Donald Trump cette année relève du domaine du possible. Les sondages placent le démocrate Joe Biden en tête des intentions de vote. Seulement, les résultats d'une élection ne sont jamais connus d'avance. Cette année, avec la pandémie de coronavirus qui fait des ravages aux États-Unis, beaucoup d'électeurs américains vont voter par correspondance. Ainsi, il est presque certain que l'issue du scrutin sera âprement disputée. Libreville, Ismaël Obiangze pour VOA Afrique.
Dakar et plusieurs régions du Sénégal sont inondées. Depuis vendredi, des pluies torrentielles quasi ininterrompues sont tombées et ont fait au moins 5 morts. Des jeunes ont manifesté leur colère dans plusieurs quartiers de la capitale et sa banlieue. Le président Macky Sall a annoncé l'organisation de secours sans vraiment convaincre les populations. De notre correspondant à Dakar, le reportage de Sedina Abagaye.
Fervent défenseur de l'environnement, Mamadou Diakhaté, plus connu sous le pseudonyme de Junior Diakhaté Ninché, était au départ d'une initiative pour la sensibilisation sur la COVID-19. Mais avec la reprise des cours en plein hivernage, son action a évolué et il est aujourd'hui au premier plan pour aider les élèves à travailler dans des conditions optimales.
On devait préparer les élèves à revenir à l'école. C'est dans cette perspective qu'on a fait le tour du Sénégal et à Dakar en particulier pour le groupe de bénévoles dont je faisais partie pour nettoyer des écoles. Et on s'est rendu compte que dans beaucoup d'écoles, les écoles n'étaient pas au top. Il y avait des soucis, soit de toilettes ou de salles de classe. C'est comme ça que c'est parti. Et on avait décidé de rénover des toilettes d'école. On a débuté au mois de juin à l'école élémentaire Issa Kane, où on a eu à faire des toilettes. Après, on est passé au lycée Blaise Diagne, après le lycée John Fitzgerald Kennedy, et aujourd'hui le lycée Yoff, qui était une urgence.
Pour la réflexion du lycée de Yoff, Junior Diakhaté Nentié lance un défi à ses 15 000 followers de Twitter afin qu'il l'aide à atteindre un budget d'environ 2 millions de francs CFA à travers des cotisations minimales de 100 francs. Les internautes répondent doublement présents, car en plus de l'apport financier, beaucoup d'entre eux viennent participer aux travaux. Aliou Ndiaye est un étudiant qui s'est proposé comme bénévole.
Oui, je l'ai vu sur Twitter, sur le réseau social Twitter. Il y avait beaucoup de ses followers qui partageaient l'initiative et ça m'a plu. Quand même, ça te donne l'impression que au moins tu es utile à la société. Tu fais quelque chose, tu rends presque la manette, comme on dit. Parce que comme nous, l'État a financé nos études jusqu'à les études supérieures, donc c'est légitime, c'est normal qu'on fait un retour, quoi, un retour d'investissement en quelque sorte.
Des ouvriers ont également proposé leur service pour aider Junior Diakhaté Nentié à relever son défi et remettre en état les salles de classe. Ismaïla Tamba est l'ouvrier chef de chantier. Il assure une bonne jonction entre les ouvriers professionnels et les bénévoles. Pour lui, l'état d'avancement du chantier est le résultat de l'engagement et de la solidarité des jeunes présents.
Il y a des bénévoles qui m'ont étonné en montant les portes et les fenêtres alors qu'ils sont des étudiants. Ce n'était pas évident, mais ils ont assuré pleinement. Je leur ai tout simplement montré et ils ont appliqué à la perfection. Je suis certes accompagné d'autres ouvriers, mais la majorité des gens qui travaillent sur le chantier sont des étudiants, des bricoleurs, mais avec leur détermination, ils font bien le travail. Personne n'est spécialiste de tout, mais avec le bénévolat, on essaie d'assister et d'apporter notre soutien. Grâce à ça, on a réussi tout simplement à installer tout, pratiquement.
43 établissements scolaires ont transmis une demande de réflexion à Junior Diakhaté Nentié, qui en a déjà satisfait 6. Volontaire et déterminé, le jeune enseignant de 33 ans compte sur les donateurs et les bénévoles pour continuer à rendre service et aider la communauté à travers l'école. À Dakar, Seydina Abagueye pour VOA Afrique.
Présidentielle américaine 2020, le 29 septembre, pour le premier débat entre le président républicain Donald Trump et l'ancien vice-président démocrate Joe Biden. Steve Reddish de La Voix de l'Amérique fait le point sur la campagne électorale à l'approche du 3 novembre, le jour du scrutin. Le récit est de Nathalie Barge.
This election will decide whether we save the American dream or whether we allow a socialist agenda to demolish our cherished destiny.
This is a life-changing election. This will determine what America is going to look like for a long, long time.
Après leurs conventions respectives, Donald Trump et Joe Biden se sont lancés dans la campagne électorale, affinant leur message aux électeurs dans des états clés avant leur premier face-à-face le 29 septembre. Jennifer Mertiou est professeure de communication à l'université A&M du Texas.
Je pense que nous pouvons nous attendre à voir un débat tapageur entre les deux candidats à la présidentielle.
Selon Jennifer Mertiou, Donald Trump et Joe Biden sont des combattants.
Il n'a pas peur de faire ça, de se moquer des gens et de les intimider lors d'un débat. Il l'a fait en 2016. Quant à Joe Biden, nous avons vu qu'il avait plus de débats politiques derrière lui et qu'il est très disposé à défendre sa position. Nous avons vu en 2012 que son débat vice-présidentiel ressemblait un peu de son opposition.
Les débats présidentiels sont en grande partie limités au format des candidats répondant aux questions d'un modérateur. Jennifer Mertiou revient sur la personnalité des deux candidats.
It is actually informative to see both candidates.
Il est instructif de voir le contraste entre les deux candidats, entendre comment ils s'expriment, le ton qu'ils utilisent, mais aussi la manière dont ils parlent de leur politique. Cela leur permet de s'accuser mutuellement et de réfuter afin de pouvoir se défendre.
John Cook, directeur de débat à l'université Vanderbilt, souligne que le duel doit s'élever au-delà des grandes déclarations habituelles.
Le débat commencerait par « voici le problème ou la situation ». Vous disposez de 30 minutes pour rencontrer vos consultants et conseillers et ensuite vous revenez, nous expliquer votre position. Et alors, nous aurons un débat sur la façon dont vous êtes arrivé à cette décision et sur la qualité de ces décisions.
Selon le centre de recherche Pew, 10% des électeurs lors de la présidentielle de 2016 ont décidé pour qui ils voteraient pendant ou juste après les débats.
De nombreuses recherches sur les débats présidentiels ont montré que cela permet aux gens de mieux s'identifier aux candidats auxquels ils s'identifient déjà. Cela leur permet simplement de voir qui partage leur position. Il n'y a pas beaucoup de preuves que les débats présidentiels fassent changer d'avis.
Selon les estimations, le nombre de téléspectateurs cette année dépassera les 84 millions d'Américains qui ont regardé le premier débat en 2016. Reste à savoir combien d'électeurs seront influencés par les débats à venir entre Donald Trump et Joe Biden avant la présidentielle du 3 novembre 2020.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Joselle Morissin, Lionel Gaïma et Georges Léonard Sagno. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24h sur 24, un seul site internet, voafrique.com. Sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Le premier lundi du mois de septembre chaque année, les États-Unis font une pause pour honorer leurs travailleurs et leurs contributions à la prospérité nationale. Le 5 septembre 1882, plus de 10 000 hommes et femmes ont défilé dans les rues de Manhattan pour célébrer la première fête du travail. La Central Syndical de New York avait organisé cette célébration en l'honneur des travailleurs qui s'étaient battus pour de meilleurs salaires, de plus courtes journées de travail et une amélioration de la condition des ouvriers. Et ce fut une journée de célébration, mais aussi de sacrifice. Les travailleurs avaient sacrifié leurs gains cette journée-là pour démontrer leur engagement à obtenir une juste compensation pour le dur labeur. Cette année, la pandémie du COVID-19 a créé des nouveaux défis pour les travailleurs, des problèmes sans précédent. Alors que des millions de personnes travaillent à partir de la maison pour prévenir la propagation du coronavirus, des centaines de milliers d'autres sont mobilisés dans la lutte contre la maladie. Le personnel d'urgence et les travailleurs médicaux risquent leur vie pour aider les malades et conforter les mourants. Et en effet, des centaines de professionnels de la santé ont payé de leur vie pour leurs services. Ensuite, il y a des millions d'autres, dont plusieurs dans des emplois à bas salaire, qui se sont mobilisés pour que le pays continue de fonctionner. Les denrées alimentaires doivent être produites, traitées, livrées et vendues afin que les autres puissent manger. Le courrier doit continuer d'être acheminé à travers le pays, trié et délivré. Ceux qui maintiennent en opération les centrales électriques et les stations d'adduction d'eau ne sont pas moins importants à la survie des autres que les leaders politiques qui organisent la réponse à la propagation du coronavirus ou qui trouvent des nouveaux moyens d'obtenir les équipements protectifs devenus rares et le matériel médical. En cette heure de nécessité, le monde a, une fois de plus, été témoin de l'indomptable force des États-Unis d'Amérique, a dit le président Trump. Partout à travers notre pays, des héros se sont précipités pour agir. Des médecins et infirmiers passent de nuits blanches à sauver autant de vies que possible. Les fermiers, chauffeurs de camions, épiceries et grossistes œuvrent pour maintenir les rayons garnis dans les magasins et nourrir les gens. Les familles aident les voisins nécessiteux et des communautés entières se mobilisent pour défaire le fléau, a-t-il dit. C'est un hommage à ce pays et à son peuple pour ce qu'ils ont été à même d'accomplir et pour le nombre de vies sauvées.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.